L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Manuel Serifo Namajo, président intérimaire de la République de Guinée-Bissau. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations unies à son Excellence M. Manuel Serifo Namajo, président intérimaire de la République de Guinée-Bissau. Je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée.
Señor Presidente,
Madame la Présidente de l'Assemblée des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire Général, Excellent Chef d'État et de Gouvernement, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer mon intervention en félicitant Son Excellence l'ambassadeur John William Ash à l'occasion de son élection à la présidence de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mes félicitations s'adressent également à votre pays, Antigua et Barbuda, honoré par le choix d'un de ses fils à la présidence cette année d'une des institutions les plus représentatives au monde. Sur vos épaules, Monsieur le Président, repose la responsabilité de diriger les travaux de cette session de l'Assemblée générale des Nations unies, un moment que tous estiment comme étant très critique politiquement pour la communauté internationale. En effet, aujourd'hui, la communauté internationale est confrontée à de vives préoccupations causées par des tensions dangereuses géopolitiques dans le monde, une crise internationale financière et économique aussi profonde et large telle que nous n'en avons plus vu que depuis les années 30. L'intensité de cette crise a fait que des millions de personnes sont au chômage et elle a créé également des millions de nouveaux pauvres dans le monde. De nouvelles craintes, de nouveaux dangers, de nouvelles menaces dans le monde découlant du terrorisme transnational allant jusqu'au trafic d'armes et de drogues, ainsi que les tensions interconfessionnelle effrayante résultant souvent dans l'effusion de sang, le retour brutal à la piraterie ancien style à l'heure moderne, non seulement au large de la côte de Somalie, mais également au golfe de Guinée, menaçant des voies importantes servant au transport de pétrole pour alimenter l'économie mondiale, créant l'insécurité sur le marché international, une insécurité pour la marine marchande internationale et facilitant la pêche illicite et toutes sortes de trafic maritime illégal, tel celui des armes, celui des substances psychotropiques et la traite humaine, l'éclatement persistant de violences ethniques causant d'énormes souffrances humaines et ci et là des catastrophes humanitaires inimaginables. Je viens d'un petit pays situé à la pointe la plus occidentale d'Afrique. Nous sommes pauvres, mais nous n'avons pas perdu l'espoir de créer de façon pacifique le progrès auquel nous avons droit. Nous avons marqué il y a deux jours le 40e anniversaire de notre indépendance. Mon pays a atteint son indépendance en 1973. En fait, ce n'est pas quelque chose qui nous a été offert par qui que ce soit, mais qui a été possible uniquement grâce à la solidarité internationale de certains et enfin la reconnaissance par tous. Sans exception, je souhaite exprimer à tous notre gratitude éternelle. Je souhaite déclarer notre souhait sincère de renforcer nos liens d'amitié de longue date et je souhaite affirmer notre volonté, malgré tout ce qui s'est passé, de recréer les fondements de la solidarité qui a uni nos peuples par le passé. La personne qui s'adresse à vous en ce moment, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, vous demande patience et compréhension et des espoirs pour notre solidarité. Je crois dans les expressions de générosité. Je pense qu'elles ne vont pas de pair, qu'elles ne sont pas contraires à la rationalité froide des relations entre nos États souverains. Je suis le président transitoire de la République de Guinée-Bissau et ce titre, comme vous le savez, indique quelque chose de particulier et exceptionnel. En effet, les événements politiques et militaires du 12 avril 2012 ont créé un nouvel environnement politique dans mon pays. Un coup militaire a démis le président par intérim de la République de ses fonctions et un premier ministre qui avait lancé une campagne non conclusive pour devenir président a suspendu cette campagne. Face à cette situation, nous nous sommes demandé que faire. Heureusement, la meilleure option était celle qui existe aujourd'hui. Nous avons pu éviter des écueils politiques qui auraient en fait, était catastrophique pour le pays au plan politique et militaire. Ainsi, nous avons pu circonvenir un coup militaire, nous avons pu contrôler ses effets politiques, limiter les dégâts pour les institutions. Il y a eu des positions opposées, l'une contre le retour pacifique à la normale au plan constitutionnel. Toutefois, l'autre solution était plus réaliste et visait à rétablir l'ordre constitutionnel. Nous étions confrontés à la première position qui était à la fois curieuse et spectaculaire. Cette position était défendu par ceux qui préféraient le pire pour le pays. Savez-vous pourquoi, Excellence? La réponse est la suivante. Il s'agissait de parier sur la dégradation de la situation politique dans mon pays pour confirmer leur thèse, confirmer leurs prévisions, opérationnaliser leurs concepts politiques pour la manière de régler la crise en Guinée-Bissau. En effet, toutes les tentatives ont été appliquées pour imposer le pire pour le pays. Avec une telle position radicale, ces personnes ont pu toucher les sensibilités les plus profondes de notre peuple qui est humble mais ne souhaite pas être humilié. Nous sommes une vraie démocratie malgré nos fautes, les violations des buts démocratiques. Nous sommes les premiers à le reconnaître, mais nous ne devons pas oublier que l'État est né de siècles de douleurs et d'espoir. Et afin de faire en sorte que la deuxième option avance, nous avons dû nous tourner vers le réalisme et la solidarité de la CEDEAO. Grâce à l'appui important du Conseil de sécurité des Nations Unies, la CEDEAO est devenue la seule responsable de la gestion de la période de transition agréée et a créé une mission militaire de stabilisation réduite appelée ECOMIP. au plan politique et institutionnel, le Parlement élu par le peuple bissau-guinéen, notre Assemblée nationale du peuple, a pu survivre et assurer la transition politique sur une base légitime. En fait, la Constitution de la République n'a jamais été suspendue. C'est là l'origine de la présidence transitoire de la République qui n'émane pas d'un coup militaire, mais plutôt d'un Parlement élu et donc d'un processus politique et institutionnel. Et tout est là. Je combine le poste de membre du Parlement. J'ai été élu à ce poste 4 fois consécutives et je suis également le premier vice-président de cet organe souverain. En toute modestie, je suis un démocrate bien convaincu. Je n'ai jamais participé à un coup d'État ni commandé de telles actions. En inaugurant un président transitoire de la République, la transition politique a pu reprendre. Après quelque temps, le Parlement a approuvé le pacte de transition révisé et un accord politique correspondant. Ensuite, un programme et un budget général pour l'État ont été présentés au gouvernement et j'ai été nommé président de transition. J'ai signé un décret présidentiel en vertu duquel le 24 novembre doit être la date des élections législatives et présidentielles. Et ce qui reste, et ce n'est pas peu, c'est d'assurer la disponibilité des fonds pour qu'il y ait un processus efficace, transparent et non contesté. À cette fin, comme vous le savez, nous devons créer des liste d'électeurs fiables. Ceci ne peut se faire que par le biais d'un recensement précis et une inscription des électeurs. Voilà où nous en sommes. La Guinée-Bissau est victime de deux maux reliés entre eux, la pauvreté et l'instabilité politique. En réalité, dans une société comme celle de mon pays, la pauvreté engendre l'instabilité politique. À son tour, cela a un impact sur l'ordre politique, économique plutôt, et réduit le taux de croissance et ainsi augmente les taux de pauvreté. L'enjeu pour nous consiste à ne pas tomber dans ces deux pièges, celui de la pauvreté et celui de l'instabilité politique. Surmonter ce défi, de toute évidence, va bien au-delà des objectifs pour cette période exceptionnelle de transition politique. Voilà pourquoi je ne vais pas vous présenter plus de détails. À la lumière de ce fardeau économique et politique énorme, réaliser les objectifs des millénaires dans le cadre établi dépasse nos moyens, du moins pour l'avenir prévisible. Mais cette reconnaissance ne signifie pas que le gouvernement, la société civile, les partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux de manière générale, y compris les institutions spécialisées de l'ONU, ont baissé les bras. Bien au contraire, dans le domaine de l'éducation, la santé, l'égalité des sexes, la lutte contre la pauvreté, les politiques écologiques en vue du développement durable, ainsi que dans d'autres domaines, notre pays a fait des progrès, même si les niveaux sont modestes et peut-être moins que satisfaisants. En tant que suivi des recommandations découlant de Rio+20, l'avenir que nous souhaitons, la Guinée-Bissau met tout en œuvre pour tenir ses engagements. Nous espérons que les pays plus développés, nos partenaires, joueront leur rôle dans le cadre du de la lutte contre la pauvreté, qui est l'un des plus graves fléaux pour un pays tel que la Guinée-Bissau, qui est très fragile et donc très vulnérable et continue de souffrir des conséquences d'un conflit armé. Nous appuyons la création d'un forum de haut niveau sur le développement durable le 24 septembre 2013, qui remplace la Commission du développement durable et mettra au point des initiatives de développement international pour l'après 2015. En tant que pays qui a des îles, mon pays félicite le secrétaire général des Nations Unies pour son initiative de convoquer la troisième conférence internationale des petits États insulaires en développement à Samoa en septembre 2015. Je saisis cette occasion pour remercier les Nations Unies, particulièrement le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, de l'attention qu'il a consacrée à mon pays et notamment d'avoir nommé le président de Timor-Leste, José Ramos Horta, en tant que représentant spécial dans mon pays. Monsieur Ramos Horta a apporté une excellente contribution à la normalisation politique de mon pays. Il n'est pas au-dessus de l'État n'est pas au-dessus de l'évolution de l'environnement politique international, n'est pas indifférent aux espoirs et souffrances des peuples du monde. À cet égard, nous manifestons notre solidarité avec nos frères de la CEDEAO. En Afrique, nous souhaitons grand succès au peuple malien qui a fait preuve d'énormément de maturité en allant voter avec une fierté civique durant les élections générales récentes qui marquent la fin d'une période de transition politique et en même temps envoie un signal fort à la réconciliation nationale. En commençant par les efforts de reconstruction du pays à la suite des actes terroristes. Nous félicitons la France pour le rôle crucial visant à sauvegarder l'intégrité du territoire malien, qui est la base de la souveraineté nationale du pays. Nous rejetons les attentats terroristes qui ont eu lieu au Nigeria, au Kenya, et qui ont été aiguillonnés par le radicalisme, faisant de nombreuses victimes au nom de l'intolérance religieuse. Nous offrons notre pleine solidarité au Nigeria et au Kenya, au président Goodluck Jonathan et Uhuru Kenyatta, ainsi qu'à leurs familles. Nous espérons que que notre voisin, la République de Guinée, pourra mener à bien les élections et s'engager sur la voie d'une vraie réconciliation nationale. En Égypte et en Syrie, nous espérons que le dialogue et la diplomatie vont l'emporter sur la force, de sorte que des sacrifices humains peuvent être évités. Au Moyen-Orient, nous continuons de défendre la cause palestinienne avec la même conviction que jamais. Il est crucial que le peuple palestinien en particulier et que la stabilité politique de consolidation dans le monde arabe de façon générale permettent à avancer vers un État souverain palestinien. En Europe, nous sommes reconnaissants à la France qui ne nous a jamais abandonnés et continue de jouer un rôle actif pour aider mon pays à surmonter la crise politique, ainsi que le Royaume d'Espagne, dont l'ambassadeur a joué un rôle important pour assurer la normalisation politique. Notre ami Timor-Leste, un petit pays de la communauté lusophone, a fait preuve d'un esprit admirable de coopération. Les autorités timoraises ont fait quelque chose de simple, appuyer le processus institutionnel en vue de la normalisation politique, en vue d'éviter un coup d'État. Nous remercions le président Matan Ruak et le premier ministre Janana Gusmão. Nous remercions également le président actuel du CPLP qui a fait une évaluation juste et équitable du processus politique dans mon pays. Nous le remercions de ses encouragements et de l'appel lancé à la communauté internationale pour qu'elle apporte un soutien financier aux élections générales. Je saisis cette occasion pour féliciter Mouradé Mourargui, un Mozambicain qui est secrétaire exécutif de CPLP. Avec la communauté lusophone, nous espérons qu'un jour proche, nous assisterons à la normalisation de toutes nos relations. En ce qui concerne Cuba, nous avons toujours demandé que cesse l'embargo qui dure depuis 2 décennies, qu'il y ait des réformes et nous souhaitons renforcer nos liens déjà profonds d'amitié et de solidarité. En ce qui concerne l'Asie, nous sommes très reconnaissants à la République populaire de Chine pour la coopération étendue et intense avec mon pays. Les fruits de cette coopération, notamment en ce qui concerne la construction d'édifices publics, entreront dans l'histoire en tant que symbole indélébile d'amitié. Je remercie également le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, président actuel de la CDAO, et son Excellence M. Goodluck Jonathan. Je remercie tous les chefs d'État, de gouvernement, membres de la CDAO. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, je ne suis pas le président John Ash, mais j'ai l'honneur de le représenter en ma qualité de vice-président. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président intérimaire de la République de Guinée-Bissau de sa déclaration. Je vous prie de rester à vos places au moment où nous accompagnons le président.
The Assembly will,
Nous allons maintenant entendre une déclaration de Son Excellence James Wani, vice-président de la République du Soudan du Sud. Je demande au protocole des